Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui.
Eh bien oui, conditions sine qua non de la civilisation d'aujourd'hui, bien sûr. Et avec Céline Alonso aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un parc d'attractions très spécial et presque obscène qui reconstitue l'accident mortel de Lady Diana. On va parler de l'intelligence artificielle, notamment en Estonie. On va parler des bruits de la campagne, on va parler de Joey Starr. Et on va surtout recevoir un très grand poète, un très grand académicien et un très grand humoriste, René de Obaldia.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
En France de la résistance, dès 1940, suite à l'invasion nazie, des civils s'organisent pour lutter contre l'occupant, traqué par la Gestapo. Le capitaine Dreyfus, alsacien d'origine juive, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Jugé et condamné sans preuve pour trahison, il est déporté en Guyane à perpétuité.
La liberté est le fait de disposer de sa personne et de ses biens.
Sans contrainte naturelle ou sociétale, sans aucun obstacle physique ou même moral, le choix est partie intégrante de la liberté.
C'est quoi ça, Dreyfus, la résistance?
Eh bien, j'imagine que certains auront reconnu sa voix, c'est celle de Joey Starr, effectivement, qui chante l'affaire Dreyfus, la résistance et la liberté. Eh bien, c'est pour la bonne cause, André Berkoff, l'artiste a prêté sa voix à une plateforme de téléchargement qui permet donc aux élèves de réviser le bac et le brevet en musique, et c'est une belle initiative.
Effectivement, initiative très intéressante, c'est l'application StudyTracks. Il dit, voilà, c'est très simple, vous avez des cours, etc. Et puis, vous avez vos écouteurs, vous avez vos applis, vous avez votre smartphone ou autre. Eh bien, vous écouterez du rap et du pop. Seul, au lieu d'écouter du rap et de pop, qui veut dire pas grand-chose ou n'importe quoi, eh bien, vous allez écouter un Joey Starr et puis d'autres, sur l'affaire Dreyfus, sur la résistance, sur 1940, sur la liberté, sur les lumières, etc. Et c'est vraiment un truc, je trouve ça, je dis un truc et à dessein, très intéressant. C'est-à-dire que, en fait, il dit, voilà, on peut étudier intelligemment de façon synthétisée, c'est-à-dire qu'on est en train de réviser ses livres et ses notes, et puis il y a la musique. Mais cette musique-là, ce n'est pas n'importe quelle musique, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est l'histoire de France. L'histoire de France racontée par Joey Starr, d'ailleurs il en est très ravi, le rappeur, et il a raison, parce que c'est une très 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 bonne chose, et voilà. Et aujourd'hui, StudyTracks est utilisé par des milliers de professeurs dans le monde pour lutter contre le décrochage scolaire avec des résultats spectaculaires. Ils ont déjà enregistré 1500 chansons, a été téléchargée plus de 150 000 fois en France. Elle contient 560 cours chantés qui couvrent les matières principales du collège et du lycée, mathématiques, philosophie, français, histoire, géographie. Écoutez, alors les esprits un peu chagrins diront « Mais quoi, on n'a pas besoin de ça pour lire, etc. » Non. C'est un univers sonore qui, justement, n'est pas un univers vide, n'est pas un univers de néant, est un univers, effectivement, chargé de sens et de signification. Donc, une très, très bonne chose. Je trouve qu'on en a fait le fil du jour parce que, Céline, c'est vraiment une belle chose. Mais ils ont eu déjà beaucoup de gens qui ont participé.
Oui, l'année dernière, effectivement, Soprano a été le chanteur, donc a été l'ambassadeur de cette application. Il a même accepté de rapper, lui, sur le théorème de Thalès. Et le prochain ambassadeur donc, de cette application StudyTracks, eh bien, ce sera le DJ Bob Sinclair. Sinclair.
Sud Radio, André Berkoff.
Ça balance pas mal.
Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal.
Goodbye, rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here, longing
England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Et oui, Elton John, André Berkoff, eh bien, figurez-vous qu'il avait écrit cette chanson en 1973. C'était en l'honneur de Marilyn Monroe, décédée donc 11 ans plus tôt. Il l'a réécrite en 1997 pour rendre hommage à la princesse Diana. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit en introduction de cette émission, un parc d'attractions, et ce aux États-Unis, propose donc de revivre l'accident mortel de Lady Di dans le tunnel donc de l'Alma à Paris. C'était le 31 août 1997.
Et vous voyez que les chansons les plus belles, les œuvres d'art les plus belles peuvent finir en obscénité. Je dis bien obscénité parce que le parc s'appelle National Enquirer Live. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, le National Enquirer, c'est la revue des ragots les plus de caniveaux. C'est la revue vraiment des... C'est vraiment le bas de gamme, et plus que le bas de gamme, quoi. C'est la revue qui sent mauvais, qui prend tous les ragots, toutes les formules, toutes les rumeurs les plus, je dirais, un peu nauséabondes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien voilà, ils font un Disneyland, mais un Disneyland sur les affaires, sur les crimes, sur les délits, sur les morts, évidemment, avec le people. Alors, pour $27, ça fait un peu 24 euros, eh bien, ils font des expositions, et notamment, c'est quand même hallucinant, pour la presse de Diana, eh bien, ils ont fait une simulation 3 dimensions. Oui, voilà, on voit de haut une reconstitution de Paris, on suit le parcours quand elle quitte le Ritz, les paparazzis qui la pourchassent, elle passe dans le tunnel d'Alma et l'accident. Quel lamentable exhibitionnisme.
Ouais, c'est pire, assez lamentable. Attends, pire encore, oui. André Berkoff, parce que l'attraction se termine par un sondage tout aussi de mauvais goût, demandant aux visiteurs s'ils croient que Diana Spencer était enceinte au moment du drame et leur avis sur les causes de sa mort. C'est quand même
oui, c'est vraiment, ouais. On touche le fond du fond. Et alors, il y a aussi d'autres attractions du même acabit et du même goût, Céline.
Oui, effectivement, les visiteurs peuvent aussi explorer en détail donc, la mort de John Fitzgerald Kennedy. Une reconstitution de la scène du crime.
On le voit en train d'être fusillé par...
Hein, incroyable. Et une reconstitution, effectivement, de la scène du crime dans l'affaire, donc la fameuse affaire O.J. Simpson, est également donc proposée. Tout comme une reproduction du cadavre de Michael Jackson, qui, lui, dort dans une chambre froide et observe les passants d'un regard jaune. Vous savez, comme dans son fameux clip légendaire Thriller.
Je dois dire que là, vraiment, on touche le fond. Et je me dis, c'est incroyable, l'Amérique, capable du meilleur comme du pire. Et là, c'est vraiment le musée des horreurs et des obscénités. Ils vont d'ailleurs faire les habitudes vestimentaires de la famille royale britannique. Ils vont fouiller les placards. C'est assez minable et je dirais, comme disait Monterland dans La Reine Morte, en prison pour médiocrité.
Et oui, et ce parc donc est situé dans le Tennessee aux États-Unis et prochainement, un parc va ouvrir sur le même thème et ce sera dans le Missouri, alors ça promet.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Une cloche sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine une flamme, encore faible qui réclame, protection dans les amours.
Et oui, c'était Edith Piaf, les compagnons de la chanson, André Berkoff, qui chante donc les cloches sonnent, sonnent, sonnent. Eh bien, dans certains villages de France, quand elles retentissent ces cloches, eh bien, elles dérangent parfois les touristes qui sont de passage, André. Raison pour laquelle un élu de Gironde a décidé de réagir, et vivement réagir.
Oui, alors là, franchement aussi, ça fait partie des gens qui ne supportent plus rien. Vous savez, on a l'impression qu'il y a des gens qui vivent, ils vivent dans un caisson fermé, dans une auge, ils sont en ville, et dès qu'ils arrivent à la campagne, il commence à hurler. Ah oui, ces cloches qui nous réveillent à 6h du matin. Ah, les oiseaux. Ah, le coq. Ah, les vaches. Ils ne supportent plus rien. Ces rats des villes, ils ne supportent plus rien. Alors qu'ils sont nés et que leurs parents et grands-parents étaient des rats des champs et dont les bruits, effectivement, des animaux, des cloches, des églises, etc., étaient le quotidien. Et ces gens-là disent « Ah là là, mais laissez-nous, évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le calme du tombeau, mais c'est lamentable. » Et effectivement, le Bruno Dionis de ces jours, le maire de Gajac en Gironde, il est agriculteur, il est éleveur de vaches, il dit « Mais c'est incroyable, aujourd'hui des agriculteurs sont mis en cause parce que leurs vaches meuglent, les voisins ou les vacanciers se plaignent de l'odeur et des bruits animaux. » Oui, évidemment, il y a l'odeur. « Ah là là, mais cachez ces vaches que je ne saurais voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces zombies décérébrés ? À ce moment-là, n'allez plus à la campagne. Restez chez vous, enfermez-vous, et puis qu'on n'en parle plus. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu aussi une histoire de coq, je crois, Céline.
Oui, d'abord, il y a eu une histoire de grenouilles. C'était à Grignols, en Dordogne. Des gens ont été condamnés à vider leur mare parce que le bruit des grenouilles, eh bien, embêtait le voisin. La justice leur a donné raison à l'époque.
Quoi comme quoi, les cons volent toujours en escadrille.
C'est incroyable, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que régulièrement, les touristes se disent importunés par les bruits dits de la campagne. Et l'été dernier, dans le village des Bondons en Lozère, des Parisiens avaient effectivement demandé que l'heure de la cloche de l'église soit décalée. Elle sonnait à 7h du matin. Un horaire donc un peu trop matinal pour ces vacanciers, on peut le comprendre, André. Mais leur demande avait été heureusement donc rejetée. Et bien actuellement, effectivement, c'est à cause d'un coq que des voisins se déchirent sur l'île d'Oléron.
Vous voyez, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une fake news, vraiment.
Non, non, non.
Comme on dit, une infox, pas du tout. Il y a une Corinne Faisseau, qu'une habitante de l'île d'Oléron, vous savez, de l'Atlantique, possède un jeune coq baptisé Maurice. Eh bien, le chant matinal du volatile est à l'origine d'un conflit entre Corinne et un couple qui possède une maison de vacances juste à côté de l'enclos. Les plaignants exigent le départ du coq. Sa propriétaire, attendez, c'est pas fini, est convoquée au tribunal d'instance de Rochefort. Alors, c'est pas possible parce que le coq, il chante trop tôt. Vous comprenez, c'est vrai, il faut lui donner une montre au coq. Comme ça, il sera défense d'y aller avant 8h du matin, ou 9h du matin, ou 10h, eh bien, c'est allé jusqu'au tribunal d'instance de Rochefort. C'est hallucinant. D'ailleurs, c'est dans quelques jours, elle va amener son coq à là-bas. Voilà où on en est. Voilà, alors, évidemment, la propriétaire se défend. Elle a une pétition signée par 30 000 personnes. C'est hallucinant que des gens, mais qui n'aillent plus à la campagne, mais qu'ils prennent effectivement une maison de campagne sur l'autoroute, qu'ils se mettent sur un rond-point, qu'ils se mettent sur un placement. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder à la campagne.
Et oui, elle doit être donc jugée devant le tribunal d'instance de Rochefort le 6 juin 2019. Mais ce n'est pas la première fois, André, que le chant d'un coq arrive devant la justice. Il y a 15 ans, la cour d'appel de Riom, dans le Puy-de-Dôme, a annulé une décision du tribunal de Clermont-Ferrand. Celle-ci ordonnait la destruction d'un petit élevage de volatiles. Elle justifiait ainsi son arrêt. La poule est un animal anodin et stupide au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois, André.
Eh bien oui, écoutez, c'est très joli. Vraiment, je crois que ça avance, ça avance la décérébration.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Je pense au jeune homme imprudent qui prend entre 6 mois, 2 ans pour un désordre assez minable et ce que la loi n'atteint pas. On a devant soi la justice et l'apparence de la justice.
Et oui, Michel Sardou et sa chanson polémique « Selon que vous serez inspiré » donc de Jean de La Fontaine, dans laquelle il dénonce une justice à deux vitesses, André Berkoff. Eh bien, prochainement, ce ne seront plus les hommes qui vont rendre la justice, ce seront sans doute des robots.
Bah écoutez, oui, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai que l'intelligence artificielle est en train de se développer, c'est vrai que ça va aller très loin, qu'on en parle, mais on est au début de l'extraordinaire efflorescence de l'intelligence artificielle, mais pas en Estonie. Déjà aujourd'hui, le gouvernement estonien développe une intelligence artificielle qui devra arbitrer de façon autonome des affaires de délits mineurs. Évidemment, pas les crimes, etc., mais quand même. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus confiance aujourd'hui aux machines, aux robots. Eh bien, en Estonie, c'est ça. La justice va écarter les humains dans certaines affaires judiciaires. C'est-à-dire, dans des délits mineurs, j'explique, qui concernent des faits dont les dommages sont en dessous de 7000 euros, une intelligence artificielle devra déterminer ou non la culpabilité d'une personne. Et oui, c'est le robot qui va décider. C'est la première fois dans l'histoire. Ça y est, ce ne sera plus des juges, ce ne sera plus des jurys, ce ne sera plus des avocats généraux qui vont... Non, on va leur donner tous les éléments. La machine sera pleine de données, comme d'habitude, on peut prendre des milliers de milliards de données. Voilà, et ben belle justice, ça va être très intéressant à suivre.
Et oui, cette technologie donc devrait entrer pleinement en vigueur d'ici la fin de l'année en Estonie, André Berkoff. On quitte à présent donc le monde des robots pour entrer dans celui des poètes avec le doyen des immortels de l'Académie française, le dramaturge René de Obaldia, André, qui a fêté donc en octobre dernier son centenaire. Il sera avec nous dans quelques minutes sur Sud Radio. Alors à tout de suite, restez avec nous, on se retrouve.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui.
Et oui, la culture domine tout, mais ce qui domine encore plus tout, c'est la poésie. Ce sont les mots. Ce sont les mots qui s'arrangent, qui aiment, qui font l'amour et qui font beaucoup d'enfants géniaux. Et nous allons recevoir le plus poète des centenaires, l'académicien, l'irrépressible humoriste, je dis bien humoriste, René de Obaldia.
Et oui, René de Obaldia, André Berkoff, qui est devenu donc le deuxième académicien à atteindre ce bel âge après Claude Lévi-Strauss. Il a fêté son centenaire le 22 octobre dernier. Il est donc le doyen des immortels, mais aussi le doyen des poètes français, André. Et ce, depuis le 4 juillet dernier, date du décès de Georges-Emmanuel Clancier, qui est donc décédé à 104 ans, qui avait reçu à l'époque le prix Goncourt de la poésie.
René de Obaldia, franchement, la littérature conserve son homme.
C'est possible, mais de toute façon, c'est tellement mystérieux d'être, hein, qu'on ait 20 ans ou 100 ans, la chose la plus invraisemblable qui soit au monde, c'est d'être. Ce n'est pas la mort. On m'interviewe beaucoup, actuellement à mon âge, bien sûr, sur la mort. La mort est une chose commune, je dirais,
bien sûr,
qui est réservée à tous. Ce qui est dur dans la mort, c'est la mort des autres, la mort d'un être cher, un enfant, une femme qu'on aime, enfin. Mais autrement, rien de plus naturel que de mourir. Le plus invraisemblable, c'est ce que un de mes amis, dont j'ai perdu le nom, un peu William Shakespeare, quelque chose comme ça.
Oui. William.
Voilà. Je me reviens maintenant. William m'avait dit « to be or not to be », bien sûr. Toute la question est là. Et du reste, à propos de cette question de la mort, j'aime beaucoup, il y a des mots de Cocteau que j'aime beaucoup. Quand on avait demandé à Cocteau « qu'est-ce que vous pensez de la mort ?», Cocteau avait répondu « j'étais mort si longtemps avant ma naissance. » C'est très joli.
C'est très, très joli,
et ben voilà,
c'est vrai.
C'est mon état. Je suis avec un grand point d'interrogation.
Et oui, et Cocteau qui a dit aussi, et c'est très joli cette formule, le temps, c'est de l'éternité pliée.
C'est joli. Mais
ça,
Cocteau
c'est
a de très beaux, a des mots merveilleux. Par exemple, quand je suis entré à l'Académie, je succédais à Julien Green, qui, ouais. Julien Green, converti au catholicisme, était hanté par le diable. Et véritablement hanté. Mmh. Il disait que le diable était derrière lui quand il écrivait, etc. Et alors, comme je succédais à Julien Green, j'ai noté cette particularité de Green, et j'avais retrouvé un mot de Cocteau encore qui disait « Sans le diable, Dieu n'aurait jamais atteint le grand public. » C'est très, très joli également.
Et toutes ces citations, vous les avez réunies dans un livre que j'ai adoré, André aussi, qui s'intitule « Perles de vie » et qui est paru donc il y a 2 ans,
oui,
chez Grasset. Vous avez réuni donc des pensées, des citations, des maximes qui vous ont frappé toute votre vie en fait.
Oui, c'est-à-dire que voilà, je déjeunais avec mon cher éditeur Olivier Nora, et au cours du déjeuner, il m'est venu quelques aphorismes à l'esprit, dont celui-ci, je ne vais pas en revenir, de Chesterton, qui est « Les anges volent parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère. »
C'est
et,
joli.
Et alors Olivier Nora m'a dit « Si René, vous aviez d'autres aphorismes comme ça, on pourrait faire un recueil. » J'ai dit ben, « J'ai essayé, parce que j'avais dans mon carnet de travail, mais pas pour être publié, bien sûr, j'avais noté des aphorismes, et j'ai mis un certain temps, tout de même, j'ai mis 6-7 mois, avant de réunir une série d'aphorismes peu connus,
ouais,
et qui a donné lieu à ces perles de vie, voilà, que vous évoquez.
Je voudrais évoquer, moi, un souvenir, non pas d'enfance, mais d'adolescence, où j'entre dans une librairie. Évidemment, j'étais très amoureux des livres depuis toujours. Et puis, je vois un livre qui s'appelle Le Centenaire. Le Centenaire, un roman chez Grasset, justement, où, effectivement, cette personne raconte comment on se sent quand on est centenaire. Et comme par hasard, c'était signé René de Obaldia. Et comme par hasard, René Obaldia est aujourd'hui centenaire. Mais la question que je vous pose, quand vous l'avez écrit, c'était il y a 60 ans, je
crois. En 59.
Oui, à peu près.
Ouais,
c'est ça.
En 1959, exactement.
Ah, oui, 60 ans. Oui. 60 ans.
Vous aviez 40 ans.
Ah, ben dites-moi, Rome, on peut faire Sparte.
Mais dites-moi, justement,
alors,
par rapport au contenu de ce livre, je me rappelle très bien, que je recommande d'ailleurs, je ne sais pas s'il est en livre de poche, mais je suppose qu'il y est.
Je ne sais plus très bien.
Mais en tout cas, c'est un livre désopilant, magnifique et merveilleusement écrit. René de Obaldia, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez écrit dans votre livre ?
Oui, bien, d'une certaine manière, oui. Mais pas tout, on ne peut pas tout prévoir, bien sûr.
Bien sûr.
Et lorsque j'ai écrit ce centenaire, c'était vraiment un pas vers la vieillesse. Parce qu'on ne parle pas de la vieillesse à rebut. Et ça m'intéressait beaucoup de reprendre cette chose, d'explorer qu'était la vieillesse. Ça a été une divagation en même temps.
Divagation. Bien sûr.
Bon, une prémonition. Je ne pensais pas que j'allais rejoindre mon personnage. C'est évident, je...
Ne pensais pas que vous alliez vivre.
Pas une seconde. Et alors, je sais qu'il y a eu des critiques, bien sûr, en général très favorables. Et je me souviens d'une critique qui disait, très justement, à propos du centenaire, du gâtisme considéré comme un des beaux-arts.
Joli. C'est un très joli compliment.
Voilà. C'est joli. Ouais. En tout cas, ce qui est très joli sur ce livre, figurait un bandeau et notamment une citation de François Mauriac.
Mais oui.
La vieillesse nous met d'une certaine manière hors la loi.
Ouais.
Alors vous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment de l'être ou pas ?
Hors la loi.
J'ai été plus ou moins hors la loi. Mais vous savez, bon, j'ai vécu comme tout le monde et puis j'ai subi la société. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'heureux événements. Mais hors la loi, quelle loi faudrait ? Et ça demanderait une discussion, ça demanderait un symposium. Non, voilà.
En tout cas, vous dites souvent, c'est tuant quand même d'être immortel.
Mais oui.
Mais voilà, l'Académie française, c'est ça,
vous
l'avez accueilli et on est très heureux. Que l'Académie française accueille de vrais poètes, il y en a de vrais poètes et de vrais écrivains.
Moi, l'Académie française, pour moi, est d'une famille. J'y rencontre des gens, des hommes et des femmes exceptionnels et qui sont mes amis. Vraiment, je suis ravi d'être là.
Vous y allez très régulièrement ? Vous assistez ?
Quand je peux, j'ai des moments où je me sens plus ou moins disponible, mais j'y vais le plus souvent possible parce que je vous dis, c'est un grand réconfort. J'y rencontre des gens, des hommes et des femmes d'exception. Et qui sont vraiment d'une grande humanité.
René de Obaldia, je voudrais quand même qu'on revienne. Comment vous êtes arrivé, j'allais dire comment René est devenu de Obaldia, non, comment vous êtes venu à l'écriture ?
C'est-à-dire que lorsque j'étais très jeune, très très tôt, j'avais envie de communiquer. Or, j'aurais pu m'adonner à la musique, j'adore la musique, mais ça demandait quand même des cours, des choses. La peinture, ça demande quand même un atelier. Ça demande quand même... La chose la plus simple pour moi, c'est de prendre un papier et un crayon. Donc voilà. Donc j'ai commencé à écrire, à vouloir... Au fond, c'est un désir de communication.
De parler aux autres.
Ça, ouais. Voilà.
Et dites-moi, le premier... Enfin, on ne va pas raconter dans le détail, parce que ce serait formidable. Mais le premier roman publié, c'est lequel ?
Je pense que c'est Tamerlan des cœurs.
Qui est un merveilleux roman aussi, que j'ai lu, et qui est un sublime roman. Céline, racontez-moi d'où est né, qu'est-ce que vous dites, d'où il vient René de Obaldia ?
Oui, c'est vrai que René de Obaldia, on peut dire que vous avez un destin pour le moins singulier. Vous êtes né à Hong Kong, d'un père panaméen, d'une mère française originaire de Picardie.
Oui.
Vous avez aussi du sang anglais qui coule dans vos veines.
Absolument.
Vous n'avez jamais failli voir le jour.
Vous n'avez jamais failli voir le jour.
Voilà, exactement.
Ah
oui.
Je n'ai pas mis dans l'ordre, là.
On revient à la notion de destin, qui est
exactement,
très curieux. C'est une chose très simple, et bon, que je peux vous dire, c'est que ma mère était à Hong Kong, à ce moment-là, avec mon père, qui était consul général du Panama à Hong Kong, et mon père faisait des fugues, qu'on ne l'envoyait plus, etc. Et la vie pour ma mère était vraiment impossible, c'était vraiment très difficile. Et lorsque, quand même, par un miracle d'entente, Elle m'a conçu. Elle me disait, la charmante femme, mais vraiment, très, très innocemment, j'ai tout fait pour te faire disparaître. J'ai tout fait pour que tu ne sois
pour
pas.
Pour que tu n'arrives pas.
Pour que tu n'arrives pas. Alors, elle me disait très simplement. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas la pilule.
Oui,
parce que ça pose quand même une question extraordinaire. Supposez, une seconde, qu'il y ait eu la pilule, je ne serais pas parmi vous.
Oui.
C'est une chose quand même.
Bon. C'est là où la pilule n'a pas du bon. Hein.
C'est-à-dire, ça pose des points d'interrogation. En tout cas, à ce moment-là, il y avait une cuisinière chinoise qui lui donnait des plantes dites abortives pour me faire passer. Et alors, il est arrivé que l'accouchement va arriver. Elle est reçue dans un couvent. Malheureusement, c'était une bonne sœur, par bonheur. Et puis, je viens au monde. Et quand je suis venu au monde, paraît-il, j'étais couvert de plaies. Parce que toutes les choses abortives qu'elle avait absorbées avaient eu des effets incroyables. Et on me donnait quelques jours à vivre, c'est tout.
Incroyable. Voilà.
Et alors, il fallait me changer les couches. C'était des bonnes sœurs qui se relayaient toutes les deux heures, etc. Je ne voyais pas, etc. Et puis, deux, trois jours après, le médecin est arrivé. Il dit, il y en a encore pour 4-5 jours. Et puis 4-5 jours après, j'étais là, ça a désespéré tout le monde.
Et 100 ans après, vous êtes toujours là.
Et voilà, et c'est le mystère. On revient au mystère, toujours pour moi, de la vie, de la procréation, des destins, bien sûr. Voilà. Mais effectivement, au début, je ne devais pas être parmi vous.
C'est formidable. Non, mais c'est ça qui est le hasard, etc. Juste un mot, on va passer aussi à autre chose. Oui. Juste un mot, René Obadia. Le fait Hong Kong, le Panama, la Picardie, est-ce que ça fait quelque chose ou à votre avis, tout ça compte beaucoup moins que la vie qu'on a fait ?
Je ne m'en rendais pas compte. Hein. Quand j'étais tout jeune, j'étais privé de père. J'étais élevé par ma grand-mère Honorine, un très joli prénom.
Oui, parce qu'il faut préciser que votre papa, malheureusement, vous ne l'avez pas connu.
Et donc, j'étais élevé par ma grand-mère Honorine, dans un petit village près d'Amiens, et où j'ai fait ma certificat d'études, ma première communion, et j'allais au lycée d'Amiens à ce moment-là. Et tout ça ne me préoccupait pas vraiment. J'avais une sorte de joie de vivre, je dis bien, et de pouvoir communiquer.
Oui, ça s'est resté. Oui. On va en reparler avec René de Obadia.
Et oui, il faut juste quand même raconter quand même une belle anecdote avant de faire cette coupure pub André Berkoff. C'est que votre papa, effectivement, qui ne vous a pas élevé, a ressurgi dans votre vie dans les années 50 pour vous féliciter d'avoir reçu la croix de guerre.
Exactement.
C'est sublime.
Mais oui.
Qu'est-ce que c'est joli.
Mais oui.
Parce que vous avez été un soldat, vous avez été un prisonnier de guerre.
J'ai quatre ans et demi chez les nazis.
En Pologne.
Tout simplement, en
Effectivement.
Pologne.
Effectivement. On va continuer, effectivement, à raconter, effectivement, toute votre histoire qui est extraordinaire, René de Obadia, dans un instant sur Sud Radio. On sera donc toujours en votre compagnie et on peut effectivement dire que vous n'avez rien perdu de votre esprit facétieux et de votre talent immense. A tout de suite sur Sud Radio. Pardon.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui.
Et oui, condition sine qua non, surtout quand elle est servie par des peintres, par des poètes, par des écrivains qui ont la valeur et qui ont l'esprit et la vivacité d'esprit de René de Obadia.
Et oui, René de Obadia, poète centenaire, romancier, académicien et dramaturge. Mais avant de devenir l'un des auteurs préférés les plus joués dans le monde, eh bien René de Obadia a écrit des chansons, André Berkoff, et ce dans les années 50, notamment, et c'est vraiment étonnant, pour Luis Mariano. Écoutons.
Ma chérie, mon amour,
René, est-ce que vous pouvez continuer ?
Ma chérie, mon amour, dans mes bras tu cueilleras les plus beaux jours. Dans mes bras tu cueilleras tant de ciel bleu que ton cœur sera, ton cœur plein de bonheur sera joyeux. Oui, je m'étais exercé. C'était le moment où j'avais pris un pseudonyme parce que certaines personnes, j'étais dans une situation.
Maurice Igor.
Maurice Igor, ouais. Effectivement. C'était une situation financière difficile. On m'a dit si vous pouviez écrire des paroles pour des chants, être parolier.
Ouais,
on
parolier.
Parolier.
Ouais.
Alors j'ai dit pourquoi pas. J'ai pris le pseudonyme de Maurice Igor. Très beau pseudonyme d'ailleurs.
Très, joli,
très
Maurice
bien
Igor,
choisi.
Ouais.
Vous connaissez Maurice Igor, dire, bien sûr. Alors, Maurice Igor. Et puis j'avais la chance de connaître des compositeurs de musique de chansons comme Marguerite Bonneau, Michel Hébert, Guy Lafargue, Claude Pingot, etc. Et donc j'ai pu avoir donc quelques
chansons. Vous en avez fait beaucoup, vous en avez fait pas mal.
Oui, quand même une vingtaine
incroyable.
De chansons.
Mais dites-moi, alors, René, alors, vous qui êtes quand même un grand littéraire, écrire « Ma chérie, mon amour », ça n'a pas dû être simple pour vous.
Je vais vous dire comment ça s'est passé. Ouais. J'écrivais donc des chansons sous le pseudonyme de Maurice Igor, et puis c'est Marguerite Monod qui m'a dit un jour, vous savez, vos chansons, vos paroles sont un peu trop littéraires. C'est un peu trop littéraire. Alors, je me suis élagué, et comme disait, c'est Valérie qui disait
Valérie,
tout accomplissement insuppressif. Alors, je me suis élagué, et c'est là que j'ai réussi à ce que vous venez d'entendre, à écrire « Ma chérie, mon amour, dans mes bras, tu cueilleras le plus beau jour ». Et puis alors, il y a une musique agréable, et c'est tombé tout à fait par hasard chez Luis Mariano, qui s'était pris cette chanson.
Formidable.
Et c'est comme ça. Et donc, ça a été vraiment un grand succès.
Et, oui.
Et ce qui a permis, au fond, Maurice Igor a permis à vivre au Balzia.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'à cette époque, vous reveniez de la guerre, vous aviez été donc en captivité pendant 4 ans.
Quatre ans et demi.
Incroyable. Oui.
Et c'est là que vous avez commencé à écrire, en captivité.
Je vais vous dire, j'ai été dans un camp de discipline.
En Pologne.
Je vais vous dire pourquoi, parce que je connaissais quelque peu l'allemand, je m'étais intéressé à Hölderlin, à Novalis, à Kleist, à des gens que les nazis adoraient, bien sûr.
Donc je
baragouinais un peu l'allemand, j'étais chef de commando tout de suite, donc confronté aux officiers. Il faut dire qu'en 40... nous étions livrés à l'arbitraire le plus total. En 14-18, il y avait des prisonniers allemands sur le sol français.
Oui,
mais
sûr.
Nous, il n'y en avait pas. Ils étaient maîtres de toute l'Europe. Et nous étions vraiment soumis à l'arbitraire le plus total. Un simple gardien pouvait nous tirer dessus avec son revolver en disant « Il a injurié Adolf, ça suffisait. » Il n'y avait pas trop. Ouais. Et donc, voilà, c'était très particulier.
Et oui, et vous dites, à propos de la captivité m'a donné la grâce de l'écriture. À partir de cette notion d'enfer que j'ai vécu, c'est peut-être ce qui m'a permis d'écrire des poèmes pour les enfants, sous-entendu les fameuses Innocentines sublimes.
Oui, je crois que c'était au monde 42-43. Nous étions dans un camp de prisonniers, donc, mais vraiment dans le pessimisme le plus absolu, parce que les Allemands étaient maîtres de l'Europe, et puis tout à coup, on apprend qu'ils vont attaquer la Russie. Jusqu'en Pologne, on s'est dit, on va être délivré par les Russes. Pas du tout. Les Allemands ont envahi la Russie comme dans du beurre. Et ce que nous avons vu, c'était des prisonniers russes qui arrivaient dans des conditions épouvantables, etc. Et donc, on était vraiment dans le plus grand désarroi. Et c'est tout à coup, si je pouvais revenir à quelque chose, à une enfance. Mais je n'avais pas de quoi écrire. C'était interdit, j'étais dans un camp de discipline.
Et,
et donc, j'ai pu trouver... avec un bout de bois, je ne sais pas, avec un charbon, sur un sac d'engrais.
Ouais.
Christophe, ça s'appelait. Les premières choses qui me sont venues à l'esprit, moi, j'irai dans la lune. Voilà.
Et vous avez commencé à écrire là.
Alors, j'ai commencé à écrire ça, et puis, bon, je n'ai pas été très loin. Et quand je suis revenu à Paris, quand j'étais délivré, j'avais ce poème en tête et je l'ai écrit. Et puis des amis l'ont vu, m'ont dit on va le publier dans la NRF, la Nouvelle Revue Française, qui venait de réapparaître.
Et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors d'autres m'ont dit mais vous devriez, c'est charmant, vous devriez faire une suite, faire un livre de poèmes. J'ai dit pourquoi pas. Et j'étais tout à fait d'accord, mais ça a germé. Et c'est 9 ans après que je me suis enfermé, que j'ai eu l'inspiration des Innocentines. poèmes pour enfants et oui. quelques adultes.
Et oui, qui sont pour la plupart entrés dans les manuels scolaires
mais
aujourd'hui.
Mais oui, alors ça me vaut, ça me vaut des aventures assez curieuses. Une des dernières, c'est je me retrouve dans la rue avec une amie qui avait à son bras une amie que je ne connaissais pas. Elle me présente, je te présente Renaldo Baldia. Elle dit « Ah, je vous croyais mort !» Alors je m'excuse d'être vivant, je m'excuse d'être vivant, mais pourquoi elle me croyait mort? Mais c'est parce que son petit, justement, et disait des innocentines, il était dans les manuels scolaires.
Et dans les manuels scolaires, on prend en général que des morts.
Exactement.
Et comment êtes-vous venu au théâtre, Renaldo Baldia?
Tout à fait par hasard, comme beaucoup de choses de ma vie. J'avais écrit à son, je crois, Tamerlan des Cœurs, qui avait beaucoup de succès, et dans un cocktail, je rencontre Jean Vilar. Mmh. Et Jean Vilar avait lu les articles sur moi, tout ça, et de sa belle voix grave, Jean Vilar me dit « Au Baldia, vous devriez écrire pour le théâtre. » Oh, tu oui. Et je me souviens que j'avais écrit pour moi-même une petite pièce quand j'étais à l'abbaye de Royaumont.
Oui, bien sûr.
Où j'avais écrit quelques petites pièces pour divertir. Il n'y avait pas la télévision à cette époque. Donc la soirée nous appartenait. Donc j'avais écrit quelques petites pièces comme ça. Puis enfin, je l'ai retrouvée. J'ai enfin retrouvé cette pièce que j'ai envoyée à tout hasard à Jean Vilar, puis j'avais demandé.
C'était Genousie, c'est ça?
C'était Genousie. Ouais. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, le TNP faisait des lectures publiques au Palais de Chaillot.
D'accord.
Et donc, j'ai envoyé la pièce et Vilar me dit je vais la programmer pour la lecture. Mmh. Alors, j'étais à la lecture au Palais de Chaillot, et là j'étais gâté parce que j'avais comme interprète les interprètes du TNP, c'est-à-dire c'est Wilson faisait le domestique.
Maria Cassarès
faisait l'héroïne. J'étais gâté, Jean Topard. Et puis il y avait un petit public, pas très nombreux, mais c'était très, très, très chaleureux. Et c'est comme ça que Vilar l'a pris au Théâtre Camier, qui était le théâtre d'essai à l'époque, et qui l'a inscrit à son programme, et que c'était un grand, grand succès. On jouait à bureau fermé.
Bien sûr, et après, il y a eu...
Alors après, je me suis pris à mon propre jeu, et j'ai continué d'écrire pour le théâtre.
Et donc, voilà. 5 ans après, vous faites donc « Du vent dans les branches de Sassafras ».
Oui, bien après, oui.
Et ouais, c'était avec... en 1965, et avec Michel Simon, donc dans le rôle principal.
Oui.
Racontez-nous comment il était à l'époque.
Bien, écoutez, j'ai tâché de résumer, parce que si on parle de Michel Simon, peut-être là, c'est 3h du matin, mais je veux dire par là que cette pièce du vent dans les branches de Sèvres était refusée de partout.
Incroyable.
C'est une pièce qui a été créée en Belgique. Et à un moment donné, ça a eu beaucoup de succès en Belgique. On dit, on va le monter. René Dupuis, qui dirigeait le théâtre de Grammont, un théâtre qui a disparu, a dit, bah, oui, je vais le monter, mais il faut trouver un interprète. Et tous les interprètes refusaient, ne comprenaient rien au rôle. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah mais qu'est devenu Michel Simon ?» Qu'est devenu Michel Simon ?» Parce que c'était 4 ans qu'on ne savait plus ce qu'il était. Il était à Genève, il connaissait. Donc j'envoie à tout hasard le manuscrit à Michel Simon. Et j'ai reçu une lettre merveilleuse de Michel Simon, très belle écriture, en disant qu'il avait passé un moment merveilleux, qui donnerait n'importe quoi pour jouer cette pièce. Et comme je vous l'ai dit, il a demandé fort cher. Enfin bon. Et puis, voilà. Et c'est ainsi que Michel Simon est arrivé. Était vraiment tout à coup...
René, il paraît que c'était un enfer de travailler avec Simon.
Oui, alors figurez-vous qu'il avait un caractère pour le moins difficile.
Ouais.
Et que ça a été, pour les interprètes, il y avait de merveilleux interprètes. J'avais François Seignier, il y avait...
T'es magnifique.
J'avais Caroline Cellier, j'avais une merveilleuse distribution. Mais alors, Michel Simon, ça devenait difficile. Il avait un pouvoir.
Il avait un sale caractère, il faut le dire.
Disons en gros, comme ça, parce que j'en pourrais longtemps, avec des moments très drôles en même temps. J'étais un homme plein d'esprit, d'intelligence. Hein. Vraiment. Enfin, ça a été en même temps une chose merveilleuse pour moi, une chance extraordinaire, mais en même temps, ça a été des périodes difficiles.
Et dites-moi, en fait, vous avez continué à écrire des poèmes en même temps, René Novaldia.
C'est possible.
parce que je pense à une phrase.
Oui.
Une phrase, je vous le dis comme ça, parce que le gélatineux génier dans le jasmin. C'est quoi ça?
Ça ferait une belle épitaphe.
Non, c'est quoi ça?
C'est parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais passionné, comme je dis, par la poésie très jeune.
Ouais.
Et j'ai mon professeur de lettres qui avait dit que pour lui, le plus beau vers la langue française, c'était sur un chemin montant, sablonneux, malaisé.
Malaisé, oui. Genre de La Fontaine. Voilà. Ouais.
Alors je disais, mais comment ça se fait que c'est le plus beau vers? Je ne comprenais pas. Ça m'obsédait. Et puis j'ai un autre, ça ne me vient pas à l'esprit, d'un écrivain très connu qui ne me vient plus à l'esprit, qui aussi frémissait à un vers d'une banalité incroyable. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire, d'une certaine manière, une parodie du plus beau vers de la langue française. Mais ça m'a donné une sorte de confrérie. Il y a beaucoup de personnes qui se réclament du jet gélatineux.
C'est très joli, le gélatineux génie dans le jasmin.
Dites-moi, René de Obelia, oui. Socrate disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ».
Absolument.
Vous partagez cette pensée?
De plus en plus.
C'est
de
vrai.
De plus en plus. La question, je suis, dès le début, j'ai pris une expression, une vieille expression, que j'étais esbobi.
Esbobie,
oui. Étonné, complètement.
L'ébahissement.
Ébahissement, je suis esbobie. Et à l'Académie française également, je leur ai dit, je suis esbobie. et je continue, j'étais esbobie. Ouais. Je ne reviens pas d'être né, et c'est pas de mourir, parce que, comme je vous l'ai dit, mourir, tout le monde meurt. Ce qui est dur, c'est la mort des autres, mais pas sa mort. Mais d'être là, je reste esbobie. Et je suis arrivé à un âge certain, où je suis, où je reste esbobi.
Voilà. Eh bien, vive, j'espère que nous serons tous aussi esbobi que vous. Merci René de Obaldia.
Et oui, merci René de Obaldia, merci d'être venu surtout vous raconter sur Sud Radio. André Berkoff, on vous retrouve lundi à midi sur Sud Radio et vous serez effectivement, donc, comme tous les jours, eh bien, dans tous vos états. Tout de suite, eh bien, c'est Jacques Pessis pour Les Clés d'une Vie. Aujourd'hui, il reçoit Paul de Lapanouse, le fameux fondateur du parc animalier de Thoiry. Alors à tout de suite sur Sud Radio.